dans l'émission Les Plantes Vagabondes proposée par l'équipe du Plantis à Écuyer, le coworking collaboratif et gourmand du nord de l'agglomération angevine. Je suis Claudie, ingénieure paysagiste conseil, et avec Christelle, réflexologue plantaire et relaxologue, aujourd'hui à la console, nous partons en nature à la découverte de l'histoire, des légendes, du mode de vie et des usages des plantes sauvages. Deux fois par mois, nous brossons le portrait d'une plante ou d'un groupe de végétaux pour retisser le lien avec ce patrimoine vivant et découvrir ensemble tous les bienfaits qu'elle nous apporte dans notre quotidien. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de la grande famille des mousses, végétaux pionniers de nos écosystèmes forestiers. Nous aimons dans cette émission vous faire partager ce moment nature en immersion sonore, de façon à vous placer en situation d'auditeur sensible et détendu, grâce notamment à la sécrétion d'hormones du bonheur. Cette démarche répond à un enjeu crucial dans nos vies, le besoin, que dis-je, le droit au calme et à la douceur. Que l'on habite en ville ou à la campagne, il faut bien en convenir, notre environnement sonore laisse de moins en moins de place au chant de la nature. Et le droit à faire du bruit l'emporte face au bien-être du plus grand monde, et notamment les personnes les plus fragiles. Alors que l'OMS préconise un niveau moyen de 40 décibels pour être en bonne santé, en 2017, 17% des ménages disent souffrir du bruit, car malheureusement le niveau sonore excède très souvent les 60 décibels. Les causes en sont multiples, avec en tête la généralisation de l'usage des moteurs. Trafic routier, vrombissement des motos, mais aussi toute la surenchère dans les matériels d'entretien des espaces extérieurs, énergivores et trop souvent destructeurs des habitats, au passage, les tondeuses, débroussailleuses, taille-haies, souffleuses, et j'en passe. Tout est prétexte à tapisser le fond sonore extérieur, à quand le droit au chant des oiseaux, au bruissement des feuilles, au coassement des batraciens, patrimoine sonore effacé par nos activités et notre droit à faire du bruit. Nous vous proposons aujourd'hui une balade en douceur au pays des mousses enchanteresses, une invitation à l'écoute des paysages. La mousse évoque le tapis moelleux de la nature, allons à pas feutrés à sa rencontre. Plante pionnière de nos écosystèmes, les mousses sont regroupées au sein des bryophytes, littéralement plantes à mousse, un groupe végétal très ancien, apparu il y a 470 millions d'années, un groupe essentiel, car il tient une place toute particulière dans l'évolution des végétaux. Elles constituent le maillon entre les algues vertes et les plantes vasculaires, dont font partie les fougères, les conifères et toutes les plantes à fleurs. Comme les algues, dotées de cellules chlorophylliennes, elles ont la capacité à capter le carbone atmosphérique grâce à l'énergie solaire et ainsi être autonomes. Cette faculté liée à leur abondance sur Terre explique l'intérêt qu'on leur porte aujourd'hui pour capturer sans intervention humaine de grandes quantités de CO2. Issues des milieux aquatiques, les mousses ont besoin d'eau et d'humidité pour se développer et se maintenir en vie. Dépourvues de racines, elles absorbent l'eau par imbibition et diffusion grâce à la paroi très fine de leurs cellules. Opportunistes, elles peuvent de cette manière retenir chaque goutte d'eau entrant à leur contact, qu'elle provienne de la pluie, du ruissellement ou de l'accumulation de l'eau dans les zones humides. Cette perméabilité les rend aussi vulnérables au dessèchement, liée par exemple à une forte exposition lumineuse. Cette particularité explique leur préférence pour les habitats humides et ombragés. Véritable éponge végétale, leur cycle de vie alterne phase humide et sèche en fonction des conditions atmosphériques et d'exposition. Elles contribuent ainsi à la dynamique naturelle du cycle de l'eau, stockant l'eau lors des épisodes pluvieux, en moyenne jusqu'à 15 litres d'eau par kilo de mousse, et la relâchant ensuite pendant les phases de dessiccation. Elles peuvent survivre à des périodes de sécheresse prolongées en abaissant à des niveaux records du règne végétal leur quantité d'eau cellulaire, leur métabolisme à l'arrêt, guettant des jours meilleurs et plus humides. Les mousses sont des modèles de résistance et de résilience. Dépourvues de vaisseaux conducteurs de sève, la plupart des mousses se composent de réseaux denses de tiges rudimentaires sur lesquelles s'agglutinent de minuscules feuilles. Pour s'accrocher sur les supports, elles s'ancrent grâce à des filaments appelés rhizoïdes, car ils n'assurent pas leur alimentation en eau et nutriments, comme les végétaux vasculaires. De la même façon que les fougères, les mousses alternent des phases sexuées et asexuées. Pendant les phases végétatives, elles se multiplient grâce à l'émission de spores transportées par le vent. Ces spores donneront naissance à des pieds sexués. La diffusion séparée de gamètes mâles et femelles permet la fécondation et ainsi l'évolution des espèces. Cette phase reproductive ne s'effectue que dans un environnement humide, propice au transport et à la fusion des gamètes, c'est-à-dire de préférence au printemps et à l'automne. En dehors de ces phases sexuées, lors des périodes humides, les mousses se multiplient volontiers par voie végétative. Chaque morceau de tige arraché ou déplacé par un animal peut générer un nouveau pied qui s'ancrera à son tour au support. Ces deux modes de multiplication font des mousses des organismes vraiment opportunistes, capables d'alterner phases sexuées et asexuées en fonction des conditions climatiques. Leur observation en fait en outre un excellent outil de surveillance climatique et un merveilleux symbole pour la capacité d'adaptation du monde sauvage dont nous faisons partie, comme nous le chante si joliment la grande Sophie dans son titre « Sauvage ». écoutez, dans ce vallon étant toi blanche et nue, et que ta chevelure alentour répandue s'allonge sur la mousse en onduleux rameaux, que l'immatérielle et pure voix de l'eau, mêlée au bruit léger de la brise qui pleure, module doucement ta plainte intérieure. Une souple lumière à travers les bouleaux veloute ta blancheur d'une ombre claire et molle. Grêle, un rameau retombe et touche ton épaule dans le fin mouvement des arbres où l'oiseau voit la lune glisser sous la pâleur de l'eau. Ô silence et fraîcheur de la verte atmosphère qui semble dans son calme envelopper la terre et t'endormir au sein d'un limpide univers. Ô silence et fraîcheur où tes yeux sont ouverts pour suivre longuement ta muette pensée sur l'eau dans le feuillage et dans l'ombre bercée. Immortelle beauté, pensée harmonieuse embrassant la nature, endort sereinement ton rêve et ton murmure, au-dessus des clameurs lointaines des cités. Le monde à ton regard s'efface et se balance autour de ses bouleaux pleureurs et l'hymne de ton âme infiniment s'élance dans l'insaisissable rumeur. Vallon, pelouse, silence, où l'ombre vient s'allonger, une pâle lueur danse et, de son voile léger, effleure ta forme claire sur qui rêvent les rameaux et le mouvement de l'eau paisible entre les fougères. Poétesse vendéenne du début du XXe siècle, au nom prédestiné, Cécile Sauvage, fait une très belle transition pour aborder la communion avec la nature dans ce poème intitulé « Beauté dans le vallon ». Aujourd'hui, nous parlons des mousses dans les plantes vagabondes, plantes pionnières de nombreux écosystèmes et garantes de leur bon fonctionnement. Les mousses apprécient les lieux ombragés et humides, comme les sous-bois ou les troncs d'arbres, vivants ou morts. Aventurières, elles ont la faculté de s'installer partout où elles trouvent un peu d'humidité. Aucun support ne les rebute. Rochers, toits des maisons, terrasses ombragées, asphalte des routes, même une voiture laissée longtemps dehors. Comme les lichens, les champignons et les algues, elles sont les premières à faire le passage entre le minéral et le végétal et fixent les sols pour les autres végétaux. Progressivement, sous le tapis qui s'épaissit, s'installent d'autres micro-organismes qui décomposent tout ce qui est retenu prisonnier auprès des mousses et, peu à peu, l'humus ainsi créé s'apprête à devenir le lit d'autres semences pionnières, graminées, sureaux, saules, acacias. Progressivement, le tapis moelleux devient le terreau de la forêt. Certaines espèces intrépides se risquent à pousser en plein soleil et survivent grâce au brouillard nocturne. Cachées dans les coins sombres, les mousses phosphorescentes sont quant à elles pourvues de cellules qui captent les rayons solaires et renvoient les rayonnements verts, ce qui donne l'impression aux mousses de briller. Dans les zones humides très asphyxiantes, les tiges des mousses appelées sphaignes meurent et se transforment en tourbe, alors que la partie supérieure continue de pousser et absorber ainsi jusqu'à 20 fois son poids en eau. On comprend ainsi aisément le rôle des tourbières dans la régulation et l'épuration du cycle de l'eau. En parlant de tapis de mousse végétaux, retrouvons Christelle dans la chronique « Le bonheur est dans les simples ».
Comme le thème de l'émission est la mousse, j'ai intitulé ma chronique d'aujourd'hui « Les pieds dans la mousse ». Quelle douce sensation de marcher pieds nus sur de la mousse. D'ailleurs, en général, c'est plutôt agréable de marcher pieds nus. Grâce aux nombreuses terminaisons nerveuses présentes sous nos pieds, en marchant les pieds nus, nous pouvons ressentir beaucoup de choses. D'ailleurs, je vous propose de vivre une expérience sensorielle, soit en imagination, soit en réel. Alors, imaginez que vous êtes dans un jardin rempli de fleurs, de plantes et d'arbres. Vous entendez les oiseaux, vous sentez le vent, la chaleur du soleil. Vous êtes bien détendu. Vous déambulez pieds nus dans ce jardin et vous arrivez à un petit chemin à avec au sol un parcours composé de différentes textures et revêtements. Vous marchez doucement, tranquillement, et vous prenez le temps de sentir sous vos pieds toutes ces textures, ces revêtements. Le but de cette expérience est d'être en conscience totale avec vos ressentis. Ici, pas besoin de deviner sur quoi vous marchez. Mais surtout, l'important, c'est d'être à l'écoute de ce que vous ressentez sous vos pieds. Texture, température, sensations corporelles. Mais également, quelles émotions cela vous procure. À la fin de ce parcours, le chemin continue. Et maintenant, c'est un tapis de mousse qui accueille vos pieds. Et là, waouh ! Quelle douceur, quelle sensation agréable. C'est comme si vos pieds étaient en du coton ou des nuages. Vous êtes presque en apesanteur tellement vous avez l'impression de ne pas vraiment appuyer sur le sol. Vous ressentez aussi la fraîcheur de la mousse. Profitez encore quelques instants de cette douce sensation que vous apporte la mousse. Ne vous privez pas de vivre réellement cette petite expérience. Je suis sûre que vous adorerez. Alors, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle expérience, qui sait. À bientôt, c'était Christelle.
On estime dans le monde le nombre d'espèces de mousses autour de 25 000 et autour de 1 000 en France, sachant que régulièrement on en découvre de nouvelles. Elles colonisent tous les habitats terrestres, y compris les zones glaciaires. Dans la nature, toutes les espèces cohabitent ensemble et s'entraident. On parle de symbiose. Ainsi, les mousses s'associent avec les algues pour capter l'azote de l'air. Avec l'aide des champignons, elles peuvent se nourrir des matières organiques décomposées. Comme de nombreux oiseaux, le bourdon des mousses, espèce menacée au passage, utilise la mousse pour construire son nid dans le sol. Pour résister à certains prédateurs, elle synthétise des répulsifs, des insecticides et des antibiotiques. À la suite d'un incendie ou d'une destruction d'habitat, les mousses sont les premières à recouvrir les plaies du feu. Dépourvues de systèmes de filtration des matières, elles constituent des organismes dépolluants efficaces car elles recueillent et stockent dans leurs cellules les matières polluantes comme les métaux lourds. Grâce à cette propriété, elles se révèlent être des bioaccumulateurs précieux qui permettent la cartographie des pollutions. Certains espaces naturels en Anjou sont réputés pour leur richesse variétale de mousses. L'occasion d'écouter l'interview de Vincent Lombard, technicien ENS du service environnement du département. Écoutons-le. Bonjour Vincent, nous sommes ravis de vous accueillir dans l'émission Les Plantes Vagabondes sur Radio G. Donc vous êtes technicien ENS au sein du département du Maine-et-Loire, et donc aujourd'hui je vous interview parce que en fait le département a des compétences sur la biodiversité et notamment en ce qui concerne les espaces naturels sensibles. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement qu'est-ce que c'est qu'un espace naturel sensible?
Bonjour. Oui, donc un espace naturel sensible, donc c'est un milieu naturel qui présente des caractéristiques particulières, notamment en composition floristique, faunistique ou au niveau de ses habitats naturels, donc qui sont d'intérêt remarquable et dont le département a une responsabilité de préservation et de valorisation.
D'accord. Et donc il en existe plusieurs sur le département, il y en a exactement 89, donc effectivement ça fait beaucoup d'espace à gérer. Donc comment se passent concrètement les actions sur ces espaces naturels sensibles?
Alors oui, le département de Maine-et-Loire du coup mène une politique espace naturel sensible, donc qui a été instaurée en 1989, puis cadrée par un plan départemental des ENS depuis 2010. Donc là, on est au troisième plan qui est décliné, le plan biodiversité 2022-2027. Le département acteur majeur de la biodiversité en Anjou. Donc c'est une politique qui a vocation à accompagner donc techniquement et financièrement les porteurs de projets locaux, donc les collectivités, autour de projets de préservation et de valorisation de leurs espaces naturels sensibles sur le territoire.
Donc parmi ces espaces naturels sensibles, il en existe un sur la commune de Mur-et-Rigné, qui a la particularité, c'est un site a priori qui est dont l'enjeu de préservation concerne notamment la famille des mousses. Je veux bien que vous nous expliquiez un petit peu comment s'est fait le partenariat et quel type de mousses on a pu trouver sur ce site qui est justifié en fait le classement en NENS.
Alors oui, effectivement, l'ENS de la Roche de Mur, donc qui se situe sur la commune de Mur-et-Rigné, donc il bénéficie actuellement d'un plan de gestion, donc qui est porté par la commune et accompagné par le département du Maine-et-Loire, le plan de gestion est un outil diagnostic qui aide à comprendre la fonctionnalité des écosystèmes et les enjeux qu'on peut retrouver sur le territoire, et derrière de mettre en place des actions de préservation et de valorisation de ces enjeux-là. Donc le ENS de la Roche de Mur, il est un peu particulier puisque c'est un ENS qui, comme son nom l'indique, présente un promontoire rocheux, donc avec des parois rocheuses dépourvues de sol. Hein, en fait, on est directement sur la roche mère et du coup, c'est des milieux où la végétation est très exposée à des faibles taux de nutriments, et du coup on va avoir une végétation particulière sur ce type d'habitat, et notamment une riche diversité de mousses, de bryophytes. Donc sur le site de la Roche de Mur, on peut compter jusqu'à près de 120 espèces de mousses différentes, donc cette diversité s'explique par la multiplicité de micro-habitats présents en fonction des conditions d'exposition au soleil, mais aussi des conditions de pluviométrie, qui permet à beaucoup de mousses de se développer sur ce lieu en particulier. Donc ça représente environ un quart des espèces de mousses présentes dans le Maine-et-Loire, sur ce petit site.
Ouais, donc comme quoi, c'est pas parce qu'on n'en a que de la roche qu'il n'y a pas de vie dessus. Et donc voilà. En fait, la particularité de ce site, c'est d'être un lieu d'escalade en fait, qui était convoité par les sportifs du département. Et donc comment s'est fait cette cohabitation entre les usagers et ce site qui était avec des mousses préservées.
Alors oui, effectivement, le site est connu aussi pour ses voies d'escalade d'entraînement, notamment pour le SDIS, donc le service départemental d'incendie et de secours. Pour concilier en fait les enjeux biodiversité et les enjeux aussi liés à ces voies d'escalade, la commune de Mur-et-Rigné, accompagnée par le département, a programmé une étude en fait des parois rocheuses réalisé par le Conservatoire botanique national de Bresse sur les bryophytes pour pouvoir identifier en fait les voies d'escalade qui pourraient être les moins impactantes vis-à-vis des populations d'espèces de mousses présentes sur le site.
Écoutez, je trouve que c'est un très beau témoignage sur justement le fait de pouvoir conduire en même temps des activités ludiques humaines et concilier avec la préservation de la nature. Je vous remercie beaucoup Vincent pour ce témoignage.
Merci à vous, bonne journée.
Merci. Avant de poursuivre, sachez que de nombreux espaces naturels sensibles sont ouverts tous les ans au public et l'occasion d'y faire des activités autour de la nature. Vous écoutez l'émission Les plantes vagabondes sur Radio G pour découvrir aujourd'hui les mousses végétales. Voici le moment de parler de la cohabitation avec l'espèce humaine et des multiples usages de ce groupe de plantes. Depuis la préhistoire au moins, les mousses ont été utilisées par notre espèce. Sa plasticité et sa forte résistance mécanique, une fois sèche, en font un matériau facile à utiliser. Rembourrage de matelas, calfeutrage de fenêtres, isolation des habitations, confection de semelles, essuie-tout, papier hygiénique, voire même pansement, avec peut-être l'antibiotique avec, car on le reconnaît aussi, des propriétés antiseptiques. Présentes partout et facilement accessibles, les mousses, avec leur texture moelleuse, évoquent le doux coton de la nature, la couverture douillette qui réconforte. En magie, elles symbolisent l'élément eau et facilitent l'ancrage à la terre. Elles apportent le réconfort et nous aident à dépasser nos peurs. L'usage médical de la mousse est très ancien. Les soignants fabriquent décoctions et pommades mélangées à des huiles ou du miel pour soigner les brûlures et les plaies. La médecine traditionnelle chinoise préconise une vingtaine d'espèces pour les problèmes pulmonaires et les gingivites. Dans nos jardins, la mousse n'est pas la bienvenue dans les pelouses, sur les terrasses ou encore les toits. Diabolisée, elle est soumise à toutes sortes de traitements chimiques ou mécaniques, chronophages et énergivores. Pourtant, ailleurs dans le monde, les mousses sont très appréciées et occupent la place centrale de la composition des jardins, comme au Japon où on la cultive volontiers. Le temple de mousse de Kyoto, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, en est un témoin majeur. Les nouveaux enjeux écologiques autour de la perméabilité des sols redonnent droit de cité aux mousses, dans certains jardins ou certains espaces paysagers, où l'on s'appuie sur les dynamiques naturelles et où s'invitent plus d'espèces sauvages. Petit à petit, les oiseaux reprennent leur place, profitant des ressources des mousses pour se confectionner des nids douillets. Dans ces espaces, nous devenons partenaires et cohabitons en paix avec la nature. Devenus observateurs, nous nous plaisons à identifier et à reconnaître les gazouillis grâce à la très utile application BirdNet. Allez, écoutons encore quelques instants leur chant avant de nous quitter. C'est la fin de cette émission. Vous trouverez toutes les informations pratiques, liens et références dans le blog de notre site www.leplanty.fr. N'hésitez pas à écouter, réécouter sans limite tous nos podcasts de l'émission Les Plantes Vagabondes sur radio-g.fr. N'oubliez pas qu'il y a deux pages. Si vous avez aimé et souhaitez partager ce moment nature, faites passer le message autour de vous. C'était Claudie sur Radio G101.5 FM. Christelle, moi et toute l'équipe du Planty vous donnons rendez-vous dans 2 semaines pour parler d'une nouvelle plante. Bonne vie à vous!
Hey, that's that nigga.